La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. Dans ce temps pascal, nous allons aborder la morale chez Jacques Maritain. Pour rappel, en philosophie réaliste, il y a deux plans. Le plan spéculatif, dont la finalité est de connaître. La métaphysique est donc la connaissance de l'être. Et le plan pratique, dont la finalité est la production. La production dans deux autres plans différents, deux sous-plans si vous voulez. Le faire, c'est-à-dire l'œuvre d'art, et l'agir. L'agir, c'est-à-dire la morale, où on produit, entre guillemets, des actions. La finalité de ces deux plans n'est pas la même, et nous allons voir comment, au plan de la morale, Maritain conçoit l'articulation entre l'apport des autres philosophies et le christianisme. Quelle est la grande question pour chacun d'entre nous? Au fond, c'est le bonheur. Comment pouvons-nous vivre heureux? Mais cette question n'est pas la même selon les âges de la vie. Et c'est plutôt quand on a quelques années derrière soi que l'on a tendance à tracer un bilan, à se dire, est-ce que j'ai vécu heureux? Est-ce que j'ai pleinement été heureux? Est-ce que je peux être encore plus heureux et comment? Et du bonheur, on passe à l'idée d'une vie réussie, pleine. Alors on arrive presque à un paradoxe, qui serait celui que finalement, c'est au moment où nous ne pouvons plus rien faire, celui du dernier bilan, que nous pouvons encore conclure si c'est heureux ou pas heureux, alors qu'il reste pratiquement plus de temps à vivre. Sur notre lit de mort, quel sera le critère d'une vie réussie? Bonheur, plénitude, réussite, j'ai utilisé trois mots différents. Parce qu'en fait, un seul peut les résumer, les transcender, et je l'emprunte à Saint Jean de la Croix, qui dit qu'au soir de notre vie, sur notre lit de mort, ce qui comptera, c'est d'avoir aimé. Aurons-nous aimé ou n'en aurons pas aimé? Et du coup, on sent très bien que l'articulation entre le bonheur, la réussite ou la plénitude, en termes philosophiques, ça va être la fin, la valeur, le bien, le bonheur, avec le christianisme, ces valeurs, ces finalités, ces notions vont être transcendées par l'amour, c'est-à-dire il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, c'est-à-dire par le salut. En somme, l'articulation du bonheur et du salut est-elle possible? Je l'ai dit autrement, le christianisme peut-il apporter une autre vision à ce que la philosophie antique a établi? Et la Renaissance, c'est-à-dire les temps modernes, vont-ils avoir une autre réponse en rejetant d'une manière laïque, athée, agnostique, les apports du christianisme pour revenir à poser une morale? C'est bien autour de ces questions que Maritain va écrire sa somme morale en 1960, la philosophie morale, qui consiste à passer en revue les philosophes de l'histoire autour de la morale. Alors pour nous aider à certains repérages, je vais commencer par prendre la fin de la philosophie morale où Maritain, qui a plusieurs annexes, plusieurs postfaces, qui rajoute des précisions, distingue différents rejets ou différents refus. Il voit qu'il y a des tentations dangereuses, c'est de se situer différemment face à la condition humaine, c'est-à-dire face à la mort. Voici. Les considérations qui suivent n'ont plus affaire aux doctrines et aux systèmes, elles portent sur la conduite humaine elle-même et sur les options les plus générales auxquelles notre attitude dans la vie se trouve liée. Ces considérations se rattachent cependant d'une manière indirecte aux positions philosophiques examinées dans cet ouvrage. Tout grand système moral, en effet, est en réalité un effort pour demander à l'homme, d'une manière ou d'une autre, et à un degré ou un autre, de dépasser en quelque façon sa condition naturelle. Vous le sentez dans la présentation que j'ai pu faire, la position du problème, savoir si on est heureux, demande un critère de jugement et donc une hiérarchie de valeurs. Le bonheur ne peut pas être un consentement à tous les oui. C'est au nom d'un oui qu'on impliquera mille non. Donc, qui dit hiérarchie de valeurs dit à 16. Pour dire des non, il faut savoir se renoncer. Et dans ce cas-là, on a déjà un dépassement de la condition humaine qui est marqué. Mais, ou bien, écrit Maritain, ces mêmes grandes doctrines philosophiques refusent d'avouer l'effort en question, ou bien elles laissent dans un état tout implicite le problème qui l'enveloppe. Il importe au contraire, à notre avis, de dégager le problème explicitement. On s'aperçoit alors qu'il concerne la vie morale de chacun d'une façon si foncière et met si profondément en cause la subjectivité individuelle qu'il relève, à vrai dire, d'une sorte de métaphysique de la conduite qui précède les théories et systématisations morales. Je m'arrête sur cette expression. Métaphysique de la conduite qui précède les théories et les systématisations morales. Vous avez, pour ainsi dire, un pont entre le plan spéculatif, celui dont la finalité est de connaître, c'est la métaphysique, et le plan pratique, avec cette expression « métaphysique de la conduite ». On peut voir que ce pont existe chez d'autres auteurs. Je pense à Descartes, qui se fait une morale par provision, c'est-à-dire provisoire. Le temps de quoi ? Mais le temps qu'il ait articulé sur le discours de la méthode, une bonne méthode pour refonder la métaphysique. Et c'est à partir du cogito, je pense donc je suis, cette refondation de la métaphysique fondée sur le doute, le pyrrhonisme, le scepticisme, on met tout en cause, que Descartes pourra ensuite fonder sa morale. Pourquoi ? Parce qu'il a une vision encore médiévale, voire antique, de l'articulation des savoirs entre eux, avec, à la manière d'un arbre, pour simplifier. Le tronc serait la métaphysique, et ensuite vous avez des branches qui viennent se hanter sur le tronc, se greffer sur le tronc, dont la morale. D'où l'idée d'une morale provisoire, donc par provision. On voit bien que les deux plans, spéculatif et pratique de la philosophie réaliste, se retrouvent chez un auteur qui n'est pas un philosophe réaliste, puisqu'il va être le fondateur de l'idéalisme. Donc revenons à cette métaphysique de la conduite. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la morale, chez Aristote, elle va partir aussi du sens commun. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, va développer la morale dans le livre 1 à partir des opinions. Il dit qu'il n'y a pas de définition du bonheur sans tenir compte des opinions, diverses opinions sur la nature à employer. Et pour Aristote, ce n'est pas vain, parce que l'opinion, pour lui, n'a pas valeur de science. Il est le fondateur d'une métaphysique, d'une philosophie déductive, avec des axiomes et des principes indémontrables, et c'est à partir de cette non-démonstration qu'on pourra déduire ensuite un raisonnement et qu'on établira la métaphysique comme science. Du coup, revenir à l'opinion pour fonder la morale, c'est ou bien contradictoire ou bien approprié justement à la spécificité de la morale. Et dans ce qu'écrit Maritain sur cette métaphysique de la conduite, il y va un peu de cet élargissement de l'opinion, non pas pour faire une addition d'expérience, comme on peut le faire en philosophie, en biologie expérimentale. Claude Bernard fera l'addition des expériences et quand il y a 1000 expériences qui donnent le même résultat, on en inférera une loi expérimentale, les lois de la biologie, jusqu'à ce qu'un jour, une expérience soit une contre-expérience et infirme ou invalide les lois précédentes, créant une nouvelle science. Maritain va donc poser cette conduite qui précède les théories à partir finalement soit d'une connaturalité ou d'un sens commun intuitif qui va fonder chez lui tout ce qui sera le champ de la loi naturelle. Et c'est très important pour nous parce que c'est la spécificité de la morale. Il y a une expérimentation intuitive, connaturelle de la chose morale. Nous retrouvons la nuance de Maritain après ce dialogue des muses sur une cithare et non sur un clavecin. C'est Couperin que nous écoutons. Maritain va cerner deux tentations. La première, c'est celle de refuser la condition humaine. C'est dans la seule perspective de la nature, écrit-il, que dans ce paragraphe, nous considérerons les choses. Nous venons de noter que la condition humaine est une condition malheureuse. L'état des espèces intermédiaires est en général un état peu enviable, et c'est d'une manière paradoxalement éminente que l'espèce humaine, à la fois chair et esprit, est une espèce intermédiaire. Les cieux racontent la gloire de Dieu, mais la terre qu'il a faite est épouvantable à l'homme. Une vallée de larmes, oui, et ce mot n'est pas une simple image poétique. Il ne s'agit là d'aucune sorte de manichéisme. Il est bien vrai que l'univers matériel foisonne de merveilles et resplendit d'une beauté inépuisable qui fait paraître en lui la marque de l'esprit qu'il a créé. Il est bien vrai que malgré la cruauté et la voracité qui l'habitent, le monde de la nature est pénétré de la bonté et de la générosité de l'être et embrasse finalement toute chose dans l'imperturbable paix de ses grandes lois et de ses grandes nécessités rationnelles qui nous ignorent superbement. Il est bien vrai que dans l'homme lui-même, le monde des sens, quelque amertume qui puisse recéler, est fait d'abord et avant tout pour nous enchanter de ses douceurs et de ses joies. Il est bien vrai que la nature humaine est bonne en son essence et que pour tout vivant, mais éminemment pour l'homme, vivre est un don merveilleux. Tout cela n'empêche pas cependant qu'un esprit dont les opérations ont besoin de la matière ne surmonte la matière qu'à un prix redoutable et en courant des risques immenses et se trouve le plus souvent bafoué par elle. Il est immortel et la matière impose la loi de la mort au corps animé par lui. L'homme a plus de grandeur que les loups voient lactées, mais à quel point le mal est facile pour lui, à quel point, si l'on considère l'espèce collectivement, il est inévitable, chez un être où le sens et l'instinct et l'inconscient animal ne demandent qu'à éluder ou à fausser le jugement de l'esprit. Quant au mal de peine ou à la souffrance, il est affreux déjà de voir souffrir un animal. La souffrance des bêtes est pourtant bien peu de chose en comparaison de celle qui transperce une chair unie à l'esprit ou l'esprit lui-même. On comprend ainsi que la tentation de refuser la condition humaine risque davantage de s'insinuer en nous quand l'homme a d'une manière ou d'une autre mieux pris conscience des exigences naturelles de l'esprit en lui, de cet esprit qui est son âme et qui se révèle à lui-même dans les plus hautes puissances de celle-ci. Une telle tentation n'existe pas chez les primitifs. On peut croire que dans l'histoire collective de l'humanité, c'est elle, pour une bonne part, qui travaillant en nous à notre insu, fait que les progrès même par lesquels la civilisation avance vont de pair avec des mirages qui les égarent ou des dégradations qui les corrompent. Refuser la condition humaine, c'est ou bien rêver de sortir de nos limites et vouloir jouir d'une pleine liberté, où par ses propres pouvoirs s'épanouirait notre nature, ou bien jouer à l'esprit pur, ou bien maudire et tâcher de méconnaître tout ce qui fait obstacle à la vie de l'intellect et vivre en état de révolte intérieure contre le fait qu'on est homme. Ou bien fuir par n'importe quelle ivresse, fût-ce dans la folie de la chair, cette situation d'une raison partout aux prises avec la matière, qui est un défi permanent aux demandes de l'esprit en nous. Il n'est guère surprenant que ceux qui se consacrent à la vie de l'intelligence, le poète en particulier et le philosophe, soient plus ou moins exposés à une telle tentation. Mais surtout, s'ils prêtent attention aux leçons de l'histoire et aux longs cris des pauvres et des abandonnés, ils comprennent que la souffrance nue, l'horreur, l'angoisse sans consolation, c'est cela, le vrai arrière-fond du monde pour nous, si généreuse pourtant que soit la nature, et si admirables les succès remportés par les générations humaines, pour rendre, par les progrès de la civilisation, de l'art et de la connaissance, les choses moins hostiles à l'homme, et les structures de sa propre vie plus dignes de lui. Il se peut que pendant longtemps, nous perdions presque de vue cet arrière-fond du monde. D'un moment à l'autre, il paraît à nos yeux. Il reste que tout cela doit être accepté. Même quand ils ne répètent pas à leur façon, et si chétivement que ce soit l'histoire de Faust, il n'est pas de plus triste et plus vaine détresse que celle des hommes qui, sous prétexte qu'ils veulent vivre selon l'intellect, se laissent entraîner par la tentation de refuser la condition humaine. Ils sont vaincus d'avance et leur défaite aggrave leur sujétion. Ce texte est absolument magnifique et très bien écrit, je n'ai pas résisté au plaisir de vous le lire. Deuxième tentation, vous le devinez, c'est l'inverse. La tentation d'accepter purement et simplement la condition humaine. Cette acceptation pure et simple, écrit Maritain, ne se paierait pas moins cher et n'est pas moins impossible. Ce serait trahir la nature humaine que de méconnaître les demandes qui lui sont consubstantielles du surhumain dans l'homme et l'exigence qu'elle comporte du mouvement progressif de l'esprit avec ses tourments et ses dangers, autrement dit, son exigence de perpétuel dépassement à l'égard du moment actuellement donné de notre condition sur Terre. Et si nous voulons le dépasser, c'est que, pour autant, nous ne l'acceptons pas sans réserve. Pour Aristote, c'est une des définitions de l'homme, appelé toujours à se dépasser, à être au-dessus de lui-même. Alors refuser la condition humaine ou l'accepter purement et simplement, c'est finalement nier la condition humaine dans sa profondeur. Jacques Maritain propose la réponse de l'Évangile. Et c'est ce long portail à la philosophie morale qui nous permet de comprendre la lecture que je vais présenter dans les semaines prochaines de Maritain, de Socrate, de Platon, d'Aristote, de Hegel, de Kant et de Descartes. Qu'en est-il de la solution chrétienne ou évangélique ? Elle nous fait passer au-delà de la pure philosophie et de la pure raison. Et pourtant, par un singulier paradoxe, c'est en elle et dans le mystère qu'elle nous propose que devient possible à l'homme une attitude envers la condition humaine qui soit authentiquement rationnelle. Revenons à cet entretien des muses avant de replonger dans l'apport du christianisme pour la morale.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
La philosophie morale, pour Maritain, c'est d'abord une réponse de l'Évangile qui permet de se tenir dans un juste milieu entre le refus de la condition humaine ou l'acceptation pure et simple. Comment considérer notre condition humaine marquée par la limite, le temps et l'espace, par le péché, par le mal ? Ce dont il s'agit pour le chrétien, c'est de transcender la condition humaine, mais par la grâce de Dieu. Non, comme pour le sage indien, par une suprême concentration sur soi-même, et en consentant, en même temps, à cette condition, en l'acceptant sans regimber, quoique non purement et simplement. Car le chrétien l'accepte quant à tout ce qui est du mal de peine propre à la condition humaine, non quant à ce qui est de la faute morale et du péché. Rupture avec la condition humaine quant au péché, acceptation de la condition humaine quant à la contingence radicale et quant à la souffrance, aussi bien qu'aux joies qu'elle comporte. Cela est demandé par la raison, mais n'est décidément possible que par la configuration de grâce à celui qui est la sainteté même parce qu'il est le Verbe incarné. Du même coup, l'acceptation de la condition humaine cesse d'être simple soumission à la nécessité, elle devient consentement actif et par amour. Que dans une certaine mesure, toute âme en qui habitent les dons de la grâce et dans une pleine mesure le saint, celui qui est entré dans ce que nous appelions plus haut le régime de la supra-morale, transcende la condition humaine, cela est évident pour qui tient que la grâce est une participation à la vie divine elle-même. C'est sur l'autre aspect de la solution évangélique, sur l'acceptation simultanée, sauf quant au péché, de la condition humaine qu'il importe d'insister ici. Dans la condition humaine ainsi transcendée et acceptée tout à la fois, tout à vrai dire, reste le même et tout est transfiguré. Si la grâce fait participer l'homme à la vie divine et si elle surélève sa nature dans l'ordre propre de celle-ci, cependant, c'est une nature toujours blessée qui est ainsi surélevée. C'est un homme toujours dévoré de faiblesse qui a part à la vie éternelle et à l'amitié de Dieu. La condition humaine n'a pas changé. Elle n'a pas changé parce que le Verbe de Dieu l'a assumée telle qu'elle était et telle qu'elle restera tant que l'histoire durera. En prenant sur lui tous les péchés du monde, celui qui était sans péché a porté aussi sur lui toutes les langueurs du monde et toute la souffrance qui sévit sur l'espèce humaine et toute l'humiliation de sa dépendance à l'égard du contingent et du fortuit. Qu'importe désormais la contingence et la futilité métaphysique auxquelles notre existence est soumise, puisque le plus insignifiant de nos actes, s'il est vivifié par la charité, a une valeur éternelle, et puisque le Fils de Dieu a accepté de subir lui-même les servitudes de notre condition. Dès lors, quand ce que nous appelions tout à l'heure le vrai arrière-fond du monde, le monde de la souffrance nue, de l'horreur, de l'angoisse, sans consolation, se révèle aux chrétiens et se saisit de lui, cette chose qui est acceptée quant au mal de peine, la condition humaine prend pour lui un sens entièrement nouveau, devient entrer dans l'œuvre rédemptrice de la croix et participer aux anéantissements de celui qu'il aime. Quoi d'étonnant que les saints soient désireux de souffrir. La souffrance, parce qu'elle est pour eux signature de leur amour et coopération à l'œuvre de leur bien-aimé, est devenue pour eux le plus précieux des biens d'ici-bas. On verra que pour l'incroyant, c'est terrible parce qu'il y a ce fossé. Qu'en est-il pour la philosophie? Puisque la présentation était le lien entre le plan spéculatif de la métaphysique et la morale. Eh bien, je vais revenir en arrière avant de vous laisser pour vous retrouver la semaine prochaine dans un texte extrait du Régime temporel et de la liberté, publié en 1933, où Maritain opère ce lien. L'homme est un animal qui se nourrit de transcendentaux. Il faut bien savoir ce qu'est l'homme, office de métaphysique et même de théologie. L'éthique, qu'on peut regarder comme la rationalisation de l'usage de la liberté, l'éthique présuppose nécessairement et préexige la métaphysique. Elle ne peut pas se construire si elle ne sait pas d'abord répondre à ces questions. Qu'est-ce que l'homme et pourquoi est-il fait? Quelle est la fin de la vie humaine? L'homme est un être métaphysique, c'est un animal qui se nourrit de transcendentaux. Il n'y a pas de morale chez les fourmis, pas plus que chez les étoiles. Leur route est tracée d'avance, mais nous autres, du seul fait que nous savons le sens du mot « être » et du mot « pourquoi » et que dans notre pauvre tête, le ciel entier est plus que le ciel peut tenir, nous voilà perdus avant d'avoir fait un pas. Il nous faut inventer notre route, il nous faut délibérer de notre fin.